France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De la Révolution mexicaine, on retient généralement quelques noms. Les grandes figures des insurrections menées par la division du Nord, derrière Pancho Villa, ou par les paysans du Sud indigènes et métis, derrière Emiliano Zapata. Les autres acteurs de ce processus insurrectionnel, entamé en 1910 et achevé en 1917, demeurent sinon dans un anonymat total, du moins dans un certain flou historique. Cette remarque vaut bien sûr pour les femmes, qui furent des combattantes, des actrices des événements de la Révolution mexicaine, et que l'histoire englobe dans l'appellation « Adelitas » ou « Soldaderas ». Dans le contexte du Mexique patriarcal et machiste du début du XXe siècle, ces femmes en armes ont pris une part active au combat. Dans l'histoire de ce pays, on considère souvent que cet épisode est une étape majeure de la longue conquête des droits civiques par les femmes. L'épopée des Adelitas et leur place dans l'imaginaire national du Mexique, c'est le cœur du propos de l'émission que voici, une matinée des autres consacrée à l'image de la femme dans la Révolution mexicaine. Première diffusion sur France Culture le 18 février 1986.
Je te suivrai.
Où vivras-tu?
Je me glisserai dans chaque village avant qu'il soit pris, et je t'y attendrai.
Tu abandonnes tout?
J'emporterai quelques vêtements. Tu me donneras de quoi acheter des fruits et de la nourriture, et je t'attendrai. Lorsque tu entreras dans le village, j'y serai. Avec une robe, j'en ai bien assez.
Tout en haut des monts escarpés, un régiment avait campé et une jeunette vaillante le suivait, follement éprise du sergent. Populaire parmi la troupe était Adelita, la femme qu'à genoux adorait le sergent. En plus d'être courageuse, était si jolie que le colonel lui-même la respectait. On l'entendait qui disait « Celui qui tant l'aimait ». Mais si Adelita me veut pour son fiancé, mais si Adelita devient un jour ma femme, je lui achèterai un vêtement de soie pour l'amener danser à la caserne.
L'image de la femme dans la Révolution mexicaine. Une émission de Gregorio Mansour. Avec Perla Petrich, Vilma Fuentes, Miguel Roras Mix et Roland Labarre.
Quand on parle de l'image de la femme pendant la Révolution mexicaine, c'est quand même un sujet très, très complexe parce qu'il y a une image préalable de la femme mexicaine qui existe déjà en France et ailleurs. Et cette image est une image qui est très liée à un phénomène qui est effectivement caractéristique de l'Amérique latine, qui est le phénomène du machisme. Alors, je crois que le machisme n'explique pas tout, que c'est un phénomène qui cache beaucoup de choses. Et je pense surtout que ce n'est pas du tout un phénomène spécifique de l'Amérique latine, que ça existe ailleurs, même en France. Avec la différence qu'en Amérique latine, est plus caricatural et plus évident. Mais le machisme n'empêche pas que la femme ait aujourd'hui, et elle a toujours eu d'ailleurs, un pouvoir. Un pouvoir beaucoup plus important que ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Ça, c'est l'image au niveau d'imaginaire, c'est-à-dire au niveau de la représentation que nous avons de la femme mexicaine, soit à la Révolution, soit aujourd'hui, même avant la Révolution.
Je rappellerai tout simplement d'abord qu'à l'époque aztèque, c'est-à-dire avant la conquête espagnole, quelque chose qui termine en 1519 donc, la femme était loin de jouir de droits égaux à ceux de l'homme. La meilleure preuve, on cite souvent le cas de la femme adultère qui était tuée, et également de la fille du maire qui était tuée dans la société aztèque. À l'époque espagnole, naturellement, les affaires ne se sont pas arrangées. Au contraire, l'état d'esprit des Espagnols à l'égard de la femme n'a fait que se surajouter à l'état d'esprit des Aztèques et avec la doctrine chrétienne. Et un exemple assez connu dans l'histoire est celui de l'épouse indienne de Cortés, qu'on appelait la Malinche, qui est devenue, dans le Mexique, le symbole de la femme soumise, obéissante à toutes les volontés de l'homme, de son maître.
La Malinche était une femme nahuatl qui a été donnée avec d'autres femmes à Cortés et que tous les chroniqueurs de l'époque disent que c'était elle l'arme la plus efficace. C'était les grands principes qui a permis aux Espagnols de conquérir le Mexique. Alors, elle joue un rôle capital parce que c'est elle qui va servir d'interprète, c'est elle qui va conseiller à Cortés comment il devait se battre. On pense que c'était elle aussi la maîtresse de Cortés. Alors c'est elle qui va donner origine au métissage. Et à la fois, c'est une femme qui va avoir un destin tragique. Parce qu'une fois que Cortés l'a utilisée, il va l'abandonner. Et c'est à ce moment-là que la Malinche devient une métaphore. Et elle devient une métaphore de la trahison du conquérant. Elle devient une métaphore de la collaboration avec les étrangers, mais les étrangers qui sont les colonisateurs. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les gens qui tiennent un discours, par exemple, anti-impérialiste, ils vont appeler Malinches à tous les gens de la bourgeoisie qui collaborent, par exemple, avec les capitaux étrangers.
Ce n'est un secret pour personne que le catholicisme mexicain se concentre dans le culte de la Vierge de Guadalupe. D'abord, il s'agit d'une vierge indienne. Ensuite, l'endroit de son apparition, devant l'Indien Juan Diego, est une colline qui possédait jadis un sanctuaire dédié à Tonantzin, notre mère, déesse de la fertilité pour les Aztèques. Or, la conquête coïncida avec l'apogée du culte des divinités masculines. Quetzalcoatl, le dieu de l'autosacrifice. Il crée le monde selon le mythe en se précipitant dans un bûcher à Teotihuacan. Et Huitzilopochtli, le jeune dieu guerrier sacrificateur. La déroute de ces dieux, car telle fut la conquête pour les Indiens, la fin d'un cycle cosmique et l'instauration d'un nouveau règne divin, produisit chez les fidèles une sorte de régression vers les antiques divinités féminines. Ce phénomène de retour au sein maternel, bien connu des psychologues, est sans doute une des causes déterminantes de la rapide popularité du culte de la Vierge. En outre, les déités indiennes représentaient la fertilité. Elles étaient reliées au rythme cosmique, aux saisons, aux rites agraires. La Vierge catholique est aussi une mère. Certains pèlerins indiens la nomment même Guadalupe Tonantzin. Mais son attribut majeur n'est pas de veiller à la fertilité de la terre. C'est d'être le refuge des désemparés. La situation a changé. Il ne s'agit plus d'assurer les récoltes, mais de trouver un refuge. La Vierge est la consolation des pauvres, le bouclier des faibles, le recours des opprimés. En somme, c'est la mère de tous les orphelins. Tous, tant que nous sommes, nous naissons déshérités. Et notre condition véritable est celle de l'orphelin. Mais cela est encore plus vrai pour les Indiens et les pauvres au Mexique. Si la chingada est une image de la mère violée, il ne me paraît pas abusif de l'associer à la conquête, qui fut aussi un viol, non seulement dans un sens historique, mais dans la chair même des Indiens. Le symbole de cette déchirure est Doña Malinche, appelée la Chingada, la maîtresse indienne de Cortés.
Évidemment, je suis le résultat, comme toutes les femmes mexicaines modernes, de deux images très importantes et sur lesquelles on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé. D'un côté, l'image de la Malinche, la Malintzin, la femme qui a trahi son peuple en partant avec un Espagnol, qui a livré son pays, et qui en réalité c'est une femme qui a vécu une histoire d'amour, une femme qui est tombée amoureuse d'un nouveau homme, et qui a servi de traductrice, c'était une femme très douée pour les langues, mais que le machisme aztèque de l'époque n'a pas supporté. Et d'un autre côté, c'est l'image aussi très connue, de laquelle Octavio Paz a écrit magnifiquement dans le labyrinthe de la solitude, que c'est la Vierge de Guadalupe, ça veut dire la femme vierge pure et paradoxalement mère, la mère toute puissante, dévoratrice, qui exige tout de ses enfants et que je crois c'est chez elle, en elle, qui repose le véritable machisme.
Cette femme, justement à cause de son destin tragique, et va être très liée à une idée dominante au Mexique, associée à la femme, qui est l'idée de la chingada. Parce que la Malinche va être la chingada. Et qu'est-ce que c'est la chingada? La chingada, ce n'est pas la pute, comme on peut dire en Espagne. Ce n'est pas la femme qui se donne par argent. La chingada, c'est plutôt la femme violée. Le terme, le verbe chingar, ça veut dire briser quelque chose. Hein? Ça veut dire pénétrer des forces. Hein? C'est plutôt la femme violée. Et la femme violée est la chose qui peut humilier le plus un Mexicain. Les Mexicains se sentent beaucoup plus humiliés du fait d'être les fils d'une femme violée que du fait d'être les fils d'une prostituée. Mais justement, et d'une certaine façon, toutes les femmes de Mexique ont été violées. Parce que tous les Mexicains sont fils de ce métissage. Et dans ce sens-là, tous les Mexicains sont des fils de la chingada. Et c'est pour ça que la chingada, justement, va jouer un rôle très, très important dans l'imaginaire. Dans cet imaginaire qui est aussi très lié au machisme. Parce que la chingada, en tant que femme violée, est une femme passive. Et justement, le rôle de la femme dans une vision machiste du monde, c'est d'être passif. Et cette mythe s'intègre très bien dans la conception mexicaine de la femme.
Dans la société mexicaine, l'image de la femme n'existe que par rapport à l'image que s'est fait d'elle l'homme. C'est pourquoi peut-être il convient de brosser les tableaux des rapports homme-femme qui ont donné naissance à cette image traditionnelle de la femme mexicaine. Octavio Paz donne une excellente définition de l'homme et de la femme mexicaine. Cette définition peut se résumer par une opposition constante. C'est l'opposition entre l'activité et la passivité. Selon lui, l'homme, c'est le synonyme de l'activité et la femme, c'est le synonyme de la passivité, de la résignation. Il s'agit d'une barrière absolument insurmontable entre l'homme et la femme. Et les raisons, il faut les chercher dans la philosophie, dans l'histoire. Lui, il dit qu'il s'agit ici d'une conception de la femme qui a été héritée des Espagnols et des Indiennes. Donc, il s'agit surtout d'une image faite par les seigneurs, par l'homme, par les machos. Alors, la femme, elle doit être passive. Et si elle est passive, elle devient la vierge, elle devient la déesse, elle devient la mère. Donc, elle devient le symbole positif. Par contre, si elle est active, elle devient moyenne, instrument, canal. Qu'est-ce qu'on trouve là ? On trouve une femme qui est étroitement limitée par des tâches, des désirs, des lois. Ou face à quoi elle n'a rien à dire, donc elle doit simplement obéir.
Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten.
Le machisme correspond à l'attitude de la femme. Et c'est la femme mexicaine, la femme mère qui va à réprimer elle en premier lieu sa fille et qui va habituer son fils à une certaine manière d'être qui s'appelle le machisme. Non, le machisme, ça veut dire un homme très très faible et dominé par la femme qui croit qu'il est le roi, mais qui au fond nous manipule de tous les côtés.
Si on parle de l'image de la femme à la Révolution mexicaine, on pense beaucoup. Et pas simplement au rôle de la femme pendant la Révolution mexicaine, mais on pense aussi beaucoup à la représentation de la femme dans l'iconographie de la Révolution mexicaine. Et là, on voit effectivement que la femme joue un rôle capital. Si on prend ceux qui sont les grands maîtres de la peinture mexicaine de l'époque, on voit que partout, dans tous les grands fresques que faisaient les muralistes mexicains, on trouve la femme. Et la femme apparaît là comme un mythe fondateur, et plus que comme un mythe fondateur, même comme un mythe d'identité. Il y a un fresque très très connu qui représente la Malinche. La Malinche nue, à côté de Hernán Cortés, qui lui aussi est représenté nu. Alors, cette fresque d'Orozco vise à montrer que le peuple mexicain est le produit de ces deux composantes culturelles, ethniques et autres, qui sont les composantes espagnoles et les composantes indiennes. Et les composantes indiennes est surtout montrée comme une femme. Alors, la femme est l'origine d'un métissage. C'est-à-dire que, je ne vais pas exagérer, mais je vais dire que tout ce que les Mexicains ont aujourd'hui d'indienne, ça vient de la femme. Parce qu'on parlait déjà, à l'époque de la conquête, on parlait de deux types de métissage. Il y avait les métissages positifs, que c'est les fils d'un Espagnol et d'une Indienne, et les métissages négatifs, que c'était les fils d'une femme espagnole et un Indien. De ce côté-là, on peut dire que la femme est une espèce de mythe fondateur.
C'est la carabina 30-30 qui armait les rebelles et disait les madéristes, avec elle, on ne tuait pas.
Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían los madridistas que con ella no mataban.
Avec ma 30-30, je vais m'en aller grossir les rangs de la rébellion. S'ils veulent mon sang je leur donne pour les habitants de notre nation.
Après donc l'époque indienne, l'époque espagnole, eh bien on a maintenant l'époque mexicaine qui commence en 1810. Un Mexique donc mexicain, un Mexique où le métissage se poursuit. Nous présente aussi quelques cas de femmes qui se sont distinguées. Le cas par exemple de cette femme du corregidor de Dolores, le corregidor c'est un peu l'équivalent de nos commissaires de la République, qui était dans une conspiration contre la domination espagnole. Elle a appris que la conspiration était découverte, c'est elle qui l'a donc fait savoir à son mari et qui l'a poussé à prévenir le curé de Dolores Hidalgo pour qu'il précipite les événements. Et c'est ainsi que la révolution s'est déclenchée, donc, le 16 septembre 1810. En 1910, l'un des événements qui ont fait le plus d'impression, je parle de 1910, c'est la fin de l'époque de la dictature de Porfirio Díaz. C'est là qu'éclate ce qu'on appelle la révolution mexicaine, celle qui amènera de profonds bouleversements. Quelques femmes, évidemment, ont pris part à la révolution de 1910, je dis quelques femmes, mais elles ont été connues, mais les plus nombreuses n'ont pas laissé de nom, elles n'ont laissé qu'un nom générique, ce qu'on appelle les femmes soldats, les soldaderas, qui suivaient l'armée pour des raisons assez difficiles à définir dans l'ensemble, mais enfin quand même parce que tantôt, lorsque le mari abandonnait le foyer pour s'engager dans une armée ou dans l'autre, la femme, si elle n'avait pas d'enfant, avait peur de rester seule, d'être victime de la répression, et alors elle suivait. Il y avait une autre raison également, c'est que dans l'armée, endoucher une solde. Et en particulier, il semble que la solde des révolutionnaires était plus importante, nettement plus importante, en tout cas dans les armées de Pancho Villa, celles qui venaient du nord, du Mexique, que dans les armées fédérales, celles du gouvernement. Et comme il y avait une solde, il y avait toujours la tentation de suivre et de jouer le rôle de cantinière, et qui donc joue le rôle de femme soldat. Et on en parle assez, en particulier, il y a des chansons qui les évoquent, mais on parle beaucoup moins, et pourtant elles ont joué un rôle peut-être plus important, des femmes qui, elles, sont restées, justement, sont restées lorsque le mari est parti, qui sont restées parce qu'elles avaient de la famille, et qui, dans un Mexique où une bonne partie de la population masculine était dans l'armée, se battait et détruisait, elles ont continué à travailler sur les terres, à faire des récoltes, ce qui a permis d'assurer un minimum de subsistance.
Bailele, bailele. Esto. El que quiera corazón, que me lo venga a pedir. Aunque soy chico de edad, no tengo miedo al morir.
Qu'est-ce qui s'est arrivé dans la révolution mexicaine? Et la révolution a été faite surtout par les femmes, tout simplement. Et ça veut dire que l'homme est parti parce qu'il aime la violence. Ça se voit très bien dans les romans de la révolution, et ça se voit parfaitement bien, surtout en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Et les hommes partent à faire la révolution. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que cette révolution, pourquoi ils luttent. C'est tout un peuple se soulève par amour de la violence et de la mort. Mais ces hommes sont très très faibles. Alors il y a les femmes qui restent à la maison, comme ma grand-mère qui attend mon grand-père pendant 10 ans que mon grand-père est parti en brodant les lits et avec la soupe servie chaque nuit si elle rentrait. Tout simplement 10 ou 12, 15 ans, je ne me souviens pas, on m'a raconté, c'était vraiment incroyable. Et la femme qui part avec l'homme, parce que l'homme a besoin de cette femme, parce qu'il est incapable de cuire à neuf, parce qu'il est incapable de charger les pistolets, parce qu'il a besoin d'un appui moral tout le temps.
Bailele, bailele. Esto.
La soldadera, c'est un terme assez ambigu. Si on cherche, par exemple, dans les dictionnaires, la définition de ces mots, on va trouver, je parle de dictionnaire de mexicanisme ou de américanisme, on va trouver des définitions comme celle-ci. La femme des soldats, une femme de basses conditions et de mauvaises manières. Finalement, c'est l'image de la prostituée. Alors nous, on peut se demander, mais vraiment, qui était cette femme? Bon, oui, toujours est une femme de basses conditions sociales. Toutes les soldaderas étaient des paysannes, mais pas toujours et pas seulement une prostituée. Évidemment, l'homme étant parti, les terres restant incultivées, elle ne pouvait pas subsister, donc il fallait absolument partir. Mais il s'agit là d'un point de départ, parce que tout de suite partie, c'était l'aventure qui commençait pour elle. Une aventure dont elle n'avait jamais rêvé. Voyager, connaître les mondes qui se trouvaient hors de son bled, connaître les autres Mexicaines, connaître les Mexiques. Il faut imaginer un peu l'importance de cette aventure quand on pense que dans une situation normale, cette femme était destinée à rester toujours jusqu'à la fin de ses jours sans sortir de son petit bourg. Et encore, parce que parfois, il vivait dans une maison perdue dans la montagne. Donc, elle n'avait pas du tout la possibilité de connaître ce qui était ailleurs. Alors, d'une façon très ambiguë, ça c'est vrai, très très ambiguë, la révolution donne à la femme une opportunité de faire dans des limites assez restreintes, un choix.
Cette révolution culturelle qui est liée à la révolution politique va être précédée par l'œuvre d'un grand artiste qui s'appelait José Guadalupe Posada, qui était un graveur qui faisait des tracks avec une image et toujours accompagné du texte d'un corrido, qui est la chanson typique et caractéristique latino-américaine. Bon, dans ces gravures, et Posada a fait beaucoup, a fait presque 30 000, on trouve souvent la femme. Mais pas du tout la femme soumise. La femme qui fait partie de la lutte révolutionnaire, qui prend les mêmes responsabilités que l'homme. Et la femme qui lutte à côté de l'homme, qui se bagarre, qui est capable d'affronter la police. Et la femme révolutionnaire, pour ça, utilisait beaucoup les squelettes, parce que c'était une espèce de satire à la société de l'époque. Et les squelettes, il les mettait dans toutes les situations possibles. Alors, il y avait un squelette révolutionnaire habillé comme soldat de la révolution. Il y avait aussi le squelette de la femme révolutionnaire. Et c'était les symboles des forces révolutionnaires. C'est-à-dire que la femme, on la trouve au niveau de l'image un peu partout. C'est curieux parce que quand on regarde la littérature de l'époque, ou même avant la littérature du 19e, on voit qu'il y a toujours la présence d'une femme avec beaucoup de caractère, et justement pour montrer qu'elle a des caractères, on l'assimile à l'homme. On dit qu'elle est une femme qui a des grandes moustaches. Ça, c'est une expression métaphorique pour dire que c'est une femme d'énorme courage. Et puis, il y a cette femme que nous connaissons tous et qu'on voit aussi dans la peinture mexicaine de l'époque, cette femme qu'on appelle la soldadera. L'imagination, puisqu'on parle de l'image, a été marquée par une d'elles, qui s'appelait Adela Maldonado. L'imagination était marquée parce que cette femme a plus ou moins représenté toutes les autres, et justement dans une chanson qui s'appelle « Si Adelita se fuera con otro », qui est une chanson d'amour, est un corrido, et c'était plus ou moins un corrido de la Révolution mexicaine. C'est-à-dire que c'est un corrido qui représente un peu la sensibilité, comment s'est passée même l'affectivité pendant la lutte révolutionnaire. Et c'est une femme qui n'hésitait pas à prendre son fusil, son 30-30, comme on l'appelait à l'époque, qui se battait et qui effectivement était la maîtresse de pas mal de soldats, et tous les soldats la respectaient énormément.
Une nuit que le détachement s'en retournait, avec le sergent dans ses rangs, par la voix d'une femme qui sanglotait, s'éleva dans le campement la prière. Le sergent l'entendit plein de crainte, à jamais de perdre son adorée. Il masqua son émotion par une feinte et à son aimé chanta ainsi. Ah, si jamais je meurs en campagne, et que mon corps connaisse la sépulture. Par Dieu, Adelita, je le demande. De tous tes yeux, pleure-moi bien.
Je suivrai.
Où vivras-tu?
Je me glisserai dans chaque village avant qu'il soit pris, et je t'y attendrai.
Tu abandonnes tout?
J'emporterai quelques vêtements. Tu me donneras de quoi acheter des fruits et de la nourriture, et je t'attendrai. Lorsque tu entreras dans le village, j'y serai.
Avec une robe, j'en ai bien assez.
Cette jupe qui maintenant reposait sur la chaise de la chambre louée. À son réveil, elle aime la toucher, ainsi que les autres choses. Les peignes, les sandales noires, les petites boucles d'oreilles posées sur la table. Il aurait voulu, à ce moment-là, lui offrir autre chose que ce jour de séparation et de retrouvailles difficiles. D'autres fois déjà, un ordre à l'improviste, la nécessité de pourchasser l'ennemi, une défaite qui les faisait reculer vers le nord, les avait séparés pendant plusieurs semaines.
Mais elle, telle une mouette, semblait distinguer par-delà les mille incidents de la lutte et du sort, les mouvements de la marée révolutionnaire. Si ce n'était pas dans le village qu'ils avaient dit, elle se trouverait tôt ou tard dans un autre. Elle irait de village en village. Elle demanderait après le bataillon. Elle écouterait les réponses des vieillards et des femmes demeurées dans les maisons. Et ils finiraient par se rencontrer de nouveau. Elle tiendrait la chambre, toute prête, avec des fruits et de quoi manger. Et la jupe serait jetée sur une chaise. Elle l'attendrait ainsi, toute prête, comme si elle ne voulait pas perdre une seule minute aux choses superflues.
Mais rien n'est superflu. La voir marcher, faire le lit, dénouer sa chevelure, lui ôter ses derniers vêtements et baiser tout son corps, tandis qu'elle reste debout et que lui s'agenouille lentement, la parcourant des lèvres, savourant la peau et le duvet, l'humidité du coquillage, recueillant dans sa bouche les frémissements de la jeune fille dressée qui finira par prendre entre ses mains la tête de l'homme pour l'obliger à s'arrêter, à laisser ses lèvres poser en un seul endroit. Et elle se laissera aller debout, pressant la tête de l'homme avec un soupir entrecoupé, jusqu'à ce qu'il la sente prête et la prenne dans ses bras pour la déposer sur le lit.
Ce qui est extraordinaire, c'est que la femme va prendre parti, avant la révolution même, avant 1910, elle va prendre parti dans les luttes révolutionnaires au Mexique. Déjà à cette époque-là, il y avait pas mal de femmes qui étaient des prolétaires et qui travaillaient dans les usines qui ont été créées justement par cette désir de modernisation qui avait imposé le régime de Porfirio Díaz. Et ces femmes vont s'organiser, vont créer des associations de femmes ouvrières et vont manifester et participer à la lutte contre Porfirio Díaz avec les autres ouvriers. Ils ont même affronté la police, les forces armées, et même il y a une femme qui représente un peu tous ces mouvements, qui s'appelle Lucrecia Toris. Quand il y a eu une énorme grève dans une région d'Orizaba, au Mexique, en 1907, c'est elle qui a pris la tête du mouvement des grèves. C'est-à-dire que la femme allait n'était pas seulement la femme qui suivait l'homme, elle arrivait même, à un certain moment, à prendre la direction des événements. Effectivement, c'est le cas de Lucrecia Toris. Il y a eu d'autres femmes qui ont joué un rôle important à l'époque. Et il y a la figure d'une femme qui s'appelait Carmen Cerdán. Elle était plutôt une femme de l'oligarchie mexicaine. Mais elle est très connue parce que, justement, elle a pris les armes pour se battre contre les forces de Porfirio Díaz. Et elle a défendu sa maison, où se trouvait caché son frère, qui était persécuté par la police, et il s'est battu. Son frère est mort, mais elle a survécu, et effectivement, il est devenu une véritable héroïne de la Révolution.
Il y a un personnage magnifique qui est celui de Jesús. Jesús, c'est le personnage central d'un roman de Elena Poniatowska. Je parle d'une auteure, d'une écrivaine mexicaine actuelle. Alors, Jesús, c'est une jeune soldadera.
une femme qui est partie avec son compagnon et qui va participer à la révolution. Pour elle, il s'agit de laisser d'être passive et commencer à être active pour devenir presque un homme. Il y a même un jeu de déguisement. Elle va changer son jupon par un pantalon. Elle dit par commodité, mais aussi et surtout pour être comme les hommes et pour pouvoir s'amuser. Il est vrai qu'elle est là avec un homme, mais pas seulement pour lui servir, pour lui faire à manger, s'occuper de son linge. Elle est là, comme toutes les autres soldaderas, pour participer à la lutte. Elle dévance les troupes et trompe l'ennemi en fournissant de fausses indications. Elle cherche, comme elle peut, où elle peut, dit ravitaillement pour les soldats. Parfois même, elle participe directement à la lutte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide son mari au front. Elle l'aide à recharger son fusil. S'il y a des blessés, elle est toujours là pour le soigner, pour s'y occuper. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Mais pour elle, ça a été vraiment l'éveil, la révolte, la possibilité de voir les choses différemment. Face à son mari, par exemple, son mari la battait. Ça, c'était assez courant. Chaque soir, quand ils étaient entre amis, tout d'un coup, le mari lui disait « Écoute, Jésus, j'ai quelque chose à te dire. » Alors, elle savait de quoi s'agissait-il, mais elle ne pouvait rien faire, donc elle partait avec lui. Et derrière les trains qui permettaient de déplacer la troupe, elle était battue. Et chaque fois, la même chose, elle était battue parce que lui l'accusait de lui tromper. Lui, il savait que ce n'était pas vrai, elle, évidemment aussi. Jusqu'un jour, Oresusa, quand son mari allait la battre, sort un revolver et lui fait face. Fini. Donc là, on voit, on se trouve face à une femme différente.
Je crois qu'il y a plusieurs motivations qui ont fait partir la femme à la révolution, à ce qu'on appelait la bola, le relâche. D'un côté, évidemment, l'homme même qui l'a demandé à sa femme ou à sa sœur, mais aussi les vols et les viols des femmes. Les hommes faisaient la révolution, ils prenaient les vaches, mais ils prenaient aussi les femmes et les ramenaient avec eux. Ils tuaient les hommes et ramenaient les filles. Et ils ont été violés, évidemment. C'est pour ça qu'ils sont partis, beaucoup d'entre elles. Et des autres sont partis parce qu'elles aimaient aussi la violence. Ou parce que quelques-unes d'entre elles, évidemment, une partie très petite d'hommes, étaient conscients des véritables jets de lutte et de revendication sociale qui étaient en train d'être faites, non, à travers cette bataille, cette lutte.
Je vais donner encore un autre exemple d'image de cette personnage de la soldadera moderne. C'est l'image qui nous donne Carlos Fuentes dans La mort d'Artemio Cruz. Là, on va trouver un personnage merveilleux. C'est aussi la soldadera, mais c'est la soldadera, la femme aimée, la femme qui est aimée, la femme qui aime son compagnon. Là, je parle de Regina. Regina, c'est la femme qui suit partout son compagnon, qui fait partie de la troupe, qui attend toujours dans un village proche son compagnon, qui vient toujours. Et pour elle, c'est lui qui compte. Elle court tous les risques pour lui suivre, pour être proche de lui. Et elle finit justement par mourir, pour être tuée par les soldats, les autres soldats, les ennemis qui arrivent avant. Et là, il y a une image merveilleuse. C'est l'homme qui arrive en cherchant la femme, son amour, et qui trouve une femme qui est pendue, dont c'est un arbre, c'est le jupon rouge de Regina qu'il voit. Il s'arrête face à cette femme morte, la femme qu'il aimait. Et là, face à ses jupons, face à ses pieds, les pieds nus, qu'il va s'effondrer, qu'il va se déchirer. Donc c'est la femme aimée. Et celui-là était aussi une soldadera.
Regina, où nous sommes-nous connus?
Tu ne te souviens pas?
Je veux que tu me le dises.
Tu ne te souviens pas de cette plage? J'y allais tous les après-midi.
Oui, je me souviens. Tu as vu le reflet de mon visage près du tien.
Souviens-toi. Et plus jamais je n'ai voulu me voir sans ton reflet à côté du mien.
Oui, je me souviens. Lorsque la résistance fit place au plaisir et que les bras qui n'avaient jamais touché d'homme les touchèrent pour la première fois avec joie et que la bouche humide, ouverte, ne cessait de répéter comme la nuit dernière que oui, que oui, que oui, qu'elle avait aimé cela, qu'avec lui elle avait aimé cela, qu'elle voulait encore, qu'elle avait eu peur de ce bonheur. Regina, au regard rêveur et allumé, elle serait toujours là, dans un village ou dans un autre. Peut-être un instant même allait se dissiper la réalité imaginaire d'un corps inerte pendant au bout d'une corde, et peut-être qu'elle serait là déjà dans un autre village. Elle était partie en avant, voilà tout. Oui, comme toujours. Elle s'en était allée sans rien dire vers le sud. Elle avait traversé les lignes des fédéraux et trouvé une petite chambre dans le village suivant. Oui, parce qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui, ni lui sans elle. Oui. Le tout était de quitter le village, de prendre le cheval, d'empoigner le pistolet, de continuer l'offensive et de la retrouver à la prochaine étape.
Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamábase Valentín, que fue fusilado y juzgado en la sierra. Acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno.
C'est drôle que joue la femme dans la Révolution mexicaine, et quand même un rôle assez conjoncturel. C'est parce que, effectivement, la révolution est un phénomène transitoire, est un phénomène qui change un peu les systèmes de valeurs et qui change aussi beaucoup le rôle de la femme. Et si on regarde un peu l'histoire des révolutions partout dans le monde, on voit que chaque fois qu'il y a eu une révolution, la femme va prendre une place que souvent elle ne l'a pas dans des temps de paix, où il est très, très intégré dans une vie institutionnelle. Mais justement, le bouleversement qui produit la révolution permet de voir les véritables qualités de la femme, et c'est souvent elle qui prend la direction des choses, pas simplement dans la révolution mexicaine, mais ailleurs aussi. Et si on veut effectivement suivre cette image, pister un peu cette image de la femme au Mexique, il faut effectivement se remonter à la histoire précolombienne. On peut se demander qu'est-ce que c'était le rôle de la femme à ce moment-là. Est-ce qu'il y a effectivement une histoire qui se continue? Est-ce que c'est une tradition précolombienne, la soumission de la femme? Ou au contraire, est-ce qu'on était les Espagnols qui ont introduit le machisme? Parce que c'est vrai que le conquistador n'est pas simplement un militaire. Le conquistador est aussi une image du conquistador macho qui séduit la femme. Et qu'il apprend par la force même. Parce qu'il y a cette notion de conquistador qui, d'un côté, il est séduisant, mais ici, va violer un peuple, hein, et va créer une société nouvelle. Alors, et cette image du conquistador, du guerrier, est aussi une image de macho que je crois que passe un peu à l'imaginaire postérieur. Alors, on s'aperçoit, par exemple, que la femme, à l'époque précolombienne, avait beaucoup plus de pouvoir de ce qu'on croit. Et on sait, par exemple, que la femme, dans certaines régions du Mexique précolombien, par exemple à Tula, elle était même à l'origine du pouvoir. Elle avait même exercé le pouvoir suprême. C'est-à-dire qu'elle était déjà chef de peuple. Hein. Et même au Mexique, on dit qu'à l'origine du pouvoir monarchique se trouve une femme qui s'appelait Jeanquetel. À une certaine époque, c'est manifeste que la femme avait un rôle politique très, très important. Mais l'histoire fait que, petit à petit, la femme commence à s'effacer. Et c'est l'homme qui va prendre le pouvoir. Et effectivement, quand les Espagnols arrivent, la femme se trouve dans une situation de soumission à l'homme. Mais c'est une soumission très particulière. Parce que c'est vrai que la femme était sous l'homme, mais c'est vrai aussi qu'il y avait des femmes qui avaient un énorme pouvoir. Il y avait la courtisane, par exemple. Et on sait qu'il y avait des courtisanes qui avaient une petite cour, elles-mêmes, qui cultivaient la poésie, qui connaissaient bien la science, et qui rivalisaient même avec les rois et avec les nobles, hein, dans le domaine de la culture. Disons que la condition de la femme était quand même assez particulière. Par exemple, si on parle de l'adultère, on dit, et c'est vrai, que l'adultère était sévèrement puni au Mexique. Mais c'était les couples qui étaient punis, pas simplement la femme. C'était l'homme et la femme. Tous les deux étaient condamnés à mort. Et la femme était justement étranglée avant d'être... Je crois que c'est brûler la peine pour l'adultère. Mais l'homme n'échappait pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une disposition de privilèges à l'égard de l'homme, comme il y a eu dans presque tous les codes des années 20-30. Et la femme, en plus, jouait un rôle social à côté des guerriers, même à l'époque précolombienne. Il y avait certaines femmes que les Espagnols ont définies comme des prostituées. Mais qui n'étaient pas vraiment des prostituées, parce que même les conquistadors rappellent que elle ne demandait pas de l'argent pour coucher avec les militaires, parce qu'il couchait effectivement avec les militaires, mais qu'elle faisait partie du corps des militaires. Et justement, quand il avait des processions, elle participait à côté des soldats de ces processions-là. La femme, donc, avait un pouvoir, avait une représentation sociale, avait accès à la culture. Elle avait même une capacité particulière, c'était la femme pouvait avoir des biens. Il avait une propriété à elle, que c'est elle qui pouvait gérer de façon absolument indépendante de l'homme. Et les divorces existaient, et dans l'imaginaire des Mexicaines qui valorisaient beaucoup les guerriers, hein, les guerriers morts, vous savez, avaient les droits à aller au paradis, mais la femme qui mourait à l'accouchage, elle aussi était assimilée à un guerrier mort, elle partaient avec les guerriers morts au paradis des guerriers.
Chez les anciennes civilisations de ce qu'on appelle maintenant le Mexique, et il y avait une image très importante de la femme féconde, et la femme mère, la femme sexuelle même, et la femme morte, coatlicue, et la femme sanguinaire, la femme qui était le maïs, enfin, dans toute la mythologie, tous les dieux aztèques ou mayas, on voit toutes ces femmes qui avaient des capacités sexuelles. C'est avec l'arrivée des Espagnols qui arrive aussi le catholicisme et l'idée de la virginité comme un valeur, c'est-à-dire de la femme pure qui n'a pas de relation sexuelle, qui est dans une espèce de tour d'ivoire, de cristal, complètement protégé. Et cette image est imposée, comme est imposée la langue, comme c'est imposée une religion, comme c'est imposée toute une culture, aux Mexicains qui aiment cette vierge, qui aiment cette vierge mère. Et je crois qu'ils aiment plus l'idée de la mère chez la vierge que l'idée de la virginité. Mais en même temps, ça cache tous les pères, non, sexuels. Des hommes au Mexique, ça veut dire qu'il se refuse à l'idée de que sa propre mère ait fait l'amour avec le père. Je me souviens d'avoir une fois dit à un de mes amis mexicains, mais ta mère faisait l'amour avec ton père. Il est devenu pâle et bêté et m'a regardé comme si j'étais un monstre. Il m'a dit, mais tu es un cochon, tu ne peux pas dire ça de ma mère. Ça veut dire, il ne pouvait pas croire que sa mère fasse l'amour comme n'importe quelle femme. Il était né comme, comme le Christ de la Vierge, avec une maman vierge. Et cette image, évidemment, a changé tous les rapports, parce que la virginité est devenue en valeur, non, pas seulement morale, même d'argent. Une fille qui est vierge peut bien se marier, une fille qui ne laisse pas, elle est perdue, elle est dans le chemin de la prostitution.
Un conte qui s'appelle Les convives d'août. Et là présente une femme typiquement mexicaine, une femme des provinces, qui a à peu près 30 ans. Donc, je dis une femme qui habite dans la province. C'est une presque, selon la conception de. C'est presque une vieille fille. Une femme de 30 ans. Tous les dimanches, il y a la kermesse et toutes les jeunes filles vont à la kermesse où il y a le taureau. Et c'est là qu'on a la possibilité, la chance, peut-être de trouver un fiancé, de trouver un mari. Mais pour ça, il faut être jeune. Alors, arrivé à un certain âge, à 30 ans, c'est fini. Si on n'a pas trouvé un fiancé, un mari, il faut s'enfermer, il faut rester à la maison, il faut s'en charger de nièces, de neveux, il faut broder, cuisiner, etc. Mais pas sortir. Et on trouve dans les contes cette image d'activité qui devient une activité malhonnête. C'est la femme qui va à la kermesse après 30 ans, qui n'a pas fiancé, qui va chercher l'homme. Donc cette femme qui est là, enfermée, entend les bruits dans la rue, et c'est les bruits des pas, les pas d'une amie, d'une copine qui a la même âge qu'elle, qui passe. Elle se rend compte que cette copine, elle va à la kermesse, même s'il ne faut pas y aller, et là, elle a l'image de la malhonnêteté, la femme qui est perdue. Elle est tellement désespérée quand même, elle ne peut pas accepter à s'enfermer qu'elle prend la décision. Alors, elle sort. Elle devient active. C'est la dernière chance. Alors, elle va à la kermesse. Elle va chercher l'homme. Elle va chercher la seule, sûrement la dernière expérience sexuelle qu'elle pourrait avoir. Et là, elle trouve son homme. Même si c'est pour une journée, elle le cherche. Et là, c'est un choix. C'est la femme qui a fait un choix, même si ce choix-là veut dire qu'elle sera pour toujours écartée de la société.
Le blessé perdit connaissance, s'accrochant à lui avec une force extraordinaire, chargée de prières silencieuses. Le lieutenant reçut ce poids de plomb sculpté par les balles sur son propre corps. Les tremblements du canon revinrent à son oreille. Un vent incertain berça la cime des arbres. À nouveau le silence et la quiétude rompus par la mitraille. Il prit le bras valide du blessé et se débarrassa du corps jeté sur le sien. Il lui prit la tête et l'étendit sur le sol couvert de racines noueuses. Il déboucha la gourde et but une longue gorgée. Il l'approcha des lèvres du blessé. L'eau glissa sur le menton noirci. Mais le cœur battait. Près de la poitrine du blessé, à genoux, il se demanda s'il battrait encore longtemps. Il défit la lourde boucle d'argent du ceinturon du blessé et lui tourna le dos. Que se passait-il là-bas, hors du bois? Qui gagnait la bataille? Artemio se leva et s'enfonça dans le bois loin du blessé. Il se tâta en marchant, tout en écartant parfois les branches basses, se tâtant toujours. Il n'était pas blessé, il n'avait pas besoin d'aide. Il s'arrêta un instant près d'une flaque d'eau et remplit sa gourde. Un petit ruisseau, mort avant de naître, s'écoulait paisiblement de la flaque et allait se perdre hors du bois, sous le soleil. Il ôta sa tunique et des deux mains mouilla sa poitrine, ses aisselles, ses épaules brûlantes, sèches, rugueuses, les muscles étirés de ses bras, la peau verdâtre, lisse, aux rudes écailles. L'agitation de l'eau l'empêcha. Il voulait se regarder dans la flaque d'eau. Ce corps n'était pas à lui.
Ce corps n'était pas à lui. Regina lui avait donné un autre possesseur. Elle l'avait revendiqué par chaque caresse. Il n'était pas à lui. Il était davantage à elle. Le sauver alors pour elle.
Ils ne vivaient plus seuls et isolés.
Ils ne vivaient plus seuls et isolés.
Ils avaient enfin brisé les murs de la séparation.
Ils avaient enfin brisé les murs de la séparation.
Ils étaient enfin deux et un seul pour toujours.
Ils étaient enfin deux et un seul pour toujours. Révolution passerait,
passerait les villages et les vies, mais jamais cela.
La femme mexicaine va enfin sortir de ces images qui sont la Malinche et la Vierge de Guadalupe. Et la révolution lui a permis de sortir du foyer. Elle va essayer de sortir enfin du foyer sans tomber dans cette autre issue que c'est un peu la prostitution, la femme publique. Mais qu'est-ce qui arrive? Et échapper à cette répression totale qui a subi la femme mexicaine, c'est difficile. Alors va créer une femme un peu macha, une femme très forte, une femme presque homme, qui n'est pas du tout consciente de lutte féministe qui ont lieu dans des autres pays, ni elle n'est pas non plus une lesbienne. Non, elle est simplement une femme endurcie par la vie, une femme qui va parler avec des gros mots, qui va dire des phrases comme un homme. Et dans les premiers exemples, c'était Lupe Vélez au cinéma au début du siècle qui a filmé à côté de Rodolfo Valentino, une femme qui est morte tragiquement, qui s'est suicidée et qui a formé toute une école d'images de femmes à laquelle appartient Maria Félix, même Dolores del Rio très protégée, c'est des maris, ils sont très riches. Et enfin, des femmes comme Amparo Montes, qui ont formé tous les cinémas des années 30 au Mexique, sont aussi des autres femmes, par exemple dans la peinture Frida Kahlo, qui adore Diego Rivera, mais qui déjà fait un art personnel, un travail personnel, mais qui c'est aussi une femme qui doit être très très dur dans la vie. L'autre exemple très très grand, c'est celui de Lupe Marin, la première femme de Diego Rivera, femme aussi du poète Jorge Cuesta, qui c'est une femme qui parle très haut, qui est presque un macho. C'est pas le machisme accepté par les femmes au foyer qui manipulent et qui écrasent elles, leurs filles ou leurs amis pour s'imposer à travers de la manipulation. Non, c'est une femme qu'elle-même va déjà travailler.
Pour ti, si tu le dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor.
Je voudrais évoquer la situation de la femme mexicaine sur différents plans. Le droit au divorce, d'abord, qui a été déjà accordé en 1914, donc par le premier gouvernement révolutionnaire, celui de Carranza, mais un droit de divorce qui était assorti de certaines dispositions qui ont duré jusqu'en 1975 et qui mettaient la femme dans un état d'infériorité par rapport au mari. Dès que donc la décision de divorce était prise, l'homme restait entièrement libre, mais la femme était placée dans une sorte de tutelle sous la responsabilité d'une personne, d'une famille, chargée de veiller à sa moralité. Une disposition donc qui a été supprimée à partir de 1975. Une autre disposition pour accorder un droit d'égalité à la femme dans la vie du ménage a été prise en 1928. C'est à partir de 1928 qu'une femme mariée a reçu le droit d'exercer une profession sans demander l'autorisation de son mari, sans obtenir l'autorisation de son mari. Et depuis, la loi a consacré le principe que les deux époux sont égaux pour faire valoir des éléments qui peuvent s'opposer, en somme, au travail de l'un ou de l'autre, question de moralité ou autre. Mais en théorie, la femme a reçu le droit d'exercer une profession sans autorisation de son mari depuis 1928. Voilà quelles sont les principales dispositions, mais il y en a d'autres qui ont été acquises plus récemment et qui parfois sont plus avancées que celles que nous connaissons nous-mêmes en France. Par exemple, depuis 1975, la femme au Mexique peut donner, disons, la nationalité au mari. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger se marie avec une Mexicaine et qu'il réside au Mexique, il obtient la nationalité mexicaine, ce qui n'est pas encore, je crois, le cas chez nous, où c'est l'homme qui donne la nationalité à la femme. On constate, d'après les statistiques, qu'il subsiste encore au Mexique une partie de la population qui ne parle pas l'espagnol, qui continue à parler langues indiennes. Ce sont en général des populations qui sont les moins rattachées au processus de développement, qui vivent dans les situations les plus pénibles, qui gagnent le moins. Eh bien, Parmi ces non-hispanophones, il y a 60% de femmes. Donc c'est là qu'il y a la plus grande proportion de gens qui ne parlent pas l'espagnol, qui est la langue qui permet d'accéder donc aux professions rémunérées correctement.
Je voudrais parler d'une manière personnelle de ce problème qui est le machisme. Et je crois qu'il y a beaucoup de exilés politiques à Paris. Moi, je serai un exilé, évidemment volontaire, puisque au Mexique, mal que bien, existe une démocratie, mais je serai un exilé du machisme. Ça veut dire que je ne peux pas supporter autant la domination masculine, mais dans le très mauvais sens, d'écrasement, et de jalousie même rétrospective, d'imposition de l'homme à la femme, comme tout ce jeu social qui est mené surtout par les femmes, pour éviter qu'une d'entre elles puisse s'en sortir, mieux que les autres. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé personnellement? Je me suis mariée très très jeune, avec un jeune poète, et malheureusement, notre propre jeunesse a fait échouer ce mariage. Après ça, il m'était interdit de voir des hommes. Pourquoi? Ma mère me l'a dit. Personnellement, maintenant tu es divorcée et il faut te surveiller plus encore qu'à une jeune fille, de laquelle on parle pas mal. C'est-à-dire la peur du quoi dira-t-on, qu'au fond c'est la peur des propres fantasmes de tout un groupe de femmes à la maison. Alors je me suis vue avec beaucoup de difficultés. Autant pour trouver du travail, je l'ai trouvé facilement, j'étais très jeune, j'étais gâtée de cette manière par la classe sociale, mais j'étais toujours payée à la moitié. Et si j'ai protesté, à la moitié qu'on paye un homme, si j'ai protesté, on me disait, mais toi, tu n'as pas à entretenir une famille. Mais moi, j'ai une fille. Oh non, non, mais si tu sors dans un restaurant, c'est l'homme qui va payer, t'inquiète pas. J'ai fait les différents métiers dans le journalisme, dans la politique, et je me suis toujours trouvé dans ces situations d'infériorité économique. Et j'ai beaucoup de chance par rapport aux autres femmes de ma génération, vraiment beaucoup d'opportunités. Mais malgré ça, je sais qu'il y a certaines inoppositions, certaines opportunités qui m'étaient voilées et empêchées à Mexico.
Tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por siempre llevarás sabor a mí.
Eh bien, le machismo, c'est assez connu. Il a été exacerbé même par, on peut dire à certains égards, par la Révolution. Il a été exacerbé forcément en temps de guerre, lorsque l'homme est valorisé. Mais cela est possible aussi en partie parce que c'est le phénomène du femélisme ou du marianisme, du nom de la Vierge Marie, bien sûr, mais la Malinche, et on remonte donc à l'origine. C'est un phénomène qui consiste pour la femme à se complaire un peu dans ce rôle de victime. Il est normal pour la femme mexicaine de penser qu'elle trouve une sorte de revanche dans l'affirmation qu'elle est supérieure du point de vue moral, du point de vue spirituel. Vous voyez, c'est un phénomène qui est très lié à la religion, et de souffrir donc avec l'idée qu'elle aura sa récompense dans l'au-delà éventuellement, mais en tout cas elle aura une récompense sociale, elle sera bien considérée.
Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
macho, c'est en réalité un homosexuel. Ça veut dire qu'il est très copain de ses copains. Il se saoule avec ses copains, il sort avec ses copains, il fait un jeu verbal qui s'appelle l'albour avec ses amis hommes dans lesquels il essaye de baisser l'autre, de gagner à l'autre, de les faire devenir homosexuel verbalement, oui. Et le machisme implique aussi une grande solidarité entre hommes contre la femme. Pourquoi ? Parce que la mère est très très puissante, la mère l'écrase et il prend toutes ses forces de sa mère, de la femme après, la femme légitime ou de la maîtresse qui va l'appuyer en tout. Et PDG au Mexique, je me souviens très bien, tous les hommes PDG que je connais, ils dépendent complètement de sa secrétaire, de leur secrétaire, que c'est une femme très maternelle qui s'occupe de lui donner son café, de lui rappeler ses rendez-vous, de l'arranger pour que sa femme ne connaisse jamais sa maîtresse, de lui mettre un bouton qui lui manque, de lui préparer tout ce qui doit être écrit. Et il est complètement dépendant de sa secrétaire, comme il est dépendant chez lui de sa femme, ou comme il était dépendant de sa mère quand il était petit. Et ce monstre féminin, qui est la mère mexicaine, qui est dévoratrice, manipulatrice, c'est évidemment aussi une partie du gène, tout est mêlé. C'est une réponse au machisme. Il faut qu'elle vive, qu'elle agisse, parce que, comme on veut, la tenir à la maison, dans la cuisine, on dit, au Mexique, on dit. Et la femme, comme le balai, ou comme le fusil, pardon, dans les coins, est chargée. C'est-à-dire, une femme enceinte ne peut pas tromper. Et surtout dans les coins, qu'elle ne voit personne. Alors la femme devient, comme elle existe quand même, elle pense, elle manipule.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con sus manitas, las estrellitas nos enjuagaban.
Dans la musique mexicaine. D'abord, il y a cette image de la femme liée au mal, que l'homme doit souvent combattre. Parce que c'est la femme qui va perdre l'homme. Et dans toute la musique mexicaine, on trouve par exemple de nombreux boleros ou corridos où on voit que l'homme se perd à cause de la femme. Et qu'il est obligé même de tuer la femme parce qu'effectivement, c'est elle qui l'a éloigné du bon chemin. Alors la femme perdition, la femme péché, etc. Et il y a l'autre image de la femme, qui est la femme noble, la femme grande âme, la femme mère. Et c'est assez extraordinaire parce que ces deux images de la femme, on les voit par rapport à une seule femme dans l'histoire de la musique mexicaine. Il y avait un grand compositeur mexicain qui s'appelait Agustín Lara. Et Agustín Lara, justement, s'est marié avec une des femmes mexicaines qui ont été considérées comme la plus belle, qui s'appelait Maria Félix. Quand il s'est marié, il a fait une chanson pour Maria Félix. C'est une chanson extraordinaire où il parlait d'elle comme une grande dame, plein de qualités, de virtudes, de loyale, etc. Mais la vie est faite comme tout le monde sait, alors les choses ont changé. Les couples, bon, les mariages, c'est interrompu. Et Agustín Lara va faire une autre chanson, hein, où il va changer complètement l'image de Maria Félix. Une chanson qui s'appelait Señora, Madame. Hein, et dans laquelle il disait que même si on l'appelait Madame, on ne se rendait pas compte hein, qu'il était une pécheresse, je sais pas comment on dit en français, une femme de la rue. Même si elle s'est cachée sous cette forme de c'est-à-dire ces deux images de la femme sont toujours très vivantes au niveau de l'imaginaire actuel au Mexique.
Que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No
no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás.
L'image de la femme dans la Révolution mexicaine. Une émission de Gregorio Mansour. Avec Perla Petrich, chargée de recherche au CNRS, Vilma Fuentes, écrivain, Miguel Roras Mix, écrivain, Roland Labarre, professeur à l'Université de la Sorbonne. Texte La mort d'Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Des Aztèques aux Mexicains d'Octavio Paz, publié dans le courrier de l'UNESCO. Lu par Claudia Stavisky et Florence Castera. Réalisation Roland Alagnès, Philippe Destrebecq, Yves Lehors, Mireille Cros.
Y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento, recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra, que se ha delitado.
Si Adelita part au loin avec un autre, je la suivrai par la terre et la mer. Si c'était par la mer sur un bateau de guerre, dans un train militaire, si c'était par la terre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 février 1986.